C'est ça qui est extraordinaire. Les qualités intérieures du cœur, vous savez quelles sont les qualités principales, donc les qualités principales de l'affectivité humaine, de l'affectivité spirituelle, du cœur humain, quoi. Les qualités principales, c'est essentiellement l'humilité. L'humilité, c'est une qualité extraordinaire. Hein? Être humble, cette fleur-là est très intéressante parce que d'abord elle se voit pas, on la voit pas, et deuxièmement elle a une très bonne odeur, très agréable. On peut dire. Bon, il y a les qualités principales, c'est la douceur. Il y a une autre fleur qu'on appelle la douceur et qui est reliée à une qualité qui fait que notre amour est très 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 immédiatement adapté. Notre amour s'adapte immédiatement, notre cœur s'adapte tout de suite. On voudrait, non pas à ce qu'on a décidé ou je sais pas quoi, mais s'adapte à l'autre, il s'adapte aux circonstances, il s'adapte aux événements. C'est la prudence qui fait ça. La prudence fait que dès qu'on se trouve face à des situations particulières ou des personnes particulières, différentes, quand ça change, avec le changement, aussitôt notre amour s'adapte. Et c'est ce qui fait la vertu de prudence. La prudence fait qu'on n'est pas une espèce de bulldozer qui aime tout le monde de la même manière, dans toutes les circonstances. Et puis on fonce, tel la bête, avec la candeur de quelqu'un qui a une imprudence invraisemblable, c'est-à-dire qui n'a pas d'amour. Et quelqu'un qui est imprudent, c'est forcément quelqu'un qui n'a pas de cœur. Qui ne sait pas ce que c'est que l'amour. Alors il peut tomber amoureux, mais il est imprudent. Donc c'est un amour animal, c'est un amour passionnel. C'est pas un amour... C'est pas l'amour cordial, c'est pas l'amour humain, c'est pas l'amour foncier du corps et de l'esprit dans l'être humain. La prudence, c'est quand même la principale des quatre vertus cardinales. C'est la douceur. Alors du coup, il y a une très grande douceur. Donc la troisième fleur qu'il faut faire fleurir un jour, pendant le mois du Sacré-Cœur, vous savez, je ne sais pas si vous avez des idées, dites-le moi, mais enfin, il y a évidemment la vertu de la patience. La patience, c'est-à-dire, en fait, traditionnellement, on appelle ça la vertu de force. La vertu de force fait que on est creusé intérieurement. C'est la profondeur de l'intériorité, la profondeur de l'amour qui fait qu'on a une force très très grande. Et cette force très grande fait qu'on ne peut plus tomber dans l'impatience ou dans le murmure ou dans la critique. Vous voyez, les trois trucs qu'on avait vus avec Saint Benoît qui sont précis. Vous voyez bien que c'est principalement l'imprudence. Vous voyez, par exemple, on avait dit, hein, quand Saint Benoît disait, il ne faut pas, un des préliminaires à la première pauvreté, à la vérité de l'être humain, à l'humilité, au fait que si on est quelqu'un qui est sur la terre, et qu'on est bien placé là où on est, c'est bien nous, premièrement, il faut être prudent. Un petit signe qu'on n'est pas prudent, c'est qu'on n'est pas à l'heure à ses rendez-vous. Ça, c'est un signe très intéressant de Saint-Benoît. J'espère que vous en rappellerez toujours. Parce que ça, c'est le signe numéro 1. Ça veut dire qu'on n'est pas rentré dans le premier degré d'humilité, puisqu'on n'est pas rentré même dans les prémices. Donc, c'est extraordinaire. Il faut avoir la prudence, il faut avoir la force, il faut avoir la tempérance, il faut avoir la vertu de justice, il faut avoir les quatre vertus cardinales. Si on n'a pas au moins un tout petit peu, je dis bien le minimum, c'est-à-dire l'extérieur, quoi, le truc le plus gros, quoi, de ces quatre vertus cardinales, c'est qu'on n'est pas rentré dans le premier degré de la vertu d'humilité. Et on a longuement médité ça, avec Saint Benoît, etc. C'était très intéressant d'ailleurs, parce que je ne savais pas. Donc j'ai découvert ça avec vous, n'est-ce pas? Donc c'est ça que j'aime bien avec vous, parce que j'aime bien avec vous, parce qu'on fait des trucs que je n'avais pas regardé avant, donc je suis obligé de les regarder à mon corps défendant. On dit, bah, tiens, comme c'est curieux, ça c'est vraiment extraordinaire. Il faut la prudence, il faut cette espèce d'extraordinaire douceur. Et Saint-Benoît, c'est le signe, c'est quoi? C'est qu'on est à l'heure. Ça veut dire qu'on est à l'heure. Ça veut dire qu'on est adapté à l'heure de l'autre, pas à la nôtre. Quelqu'un qui est toujours en avance, comme c'est agréable. Comme c'est doux, n'est-ce pas? Extraordinaire. Quelqu'un qui fait la cuisine sans douceur, vous voyez, c'est une cuisine un peu rêche, c'est un peu sec, vous savez, McDonald's, hein, un peu sec, c'est, alors vous mettez bien de la moutarde là-dedans, c'est du pain, un truc, avec un viandox dedans, et puis c'est sec. Tandis que quelqu'un qui prend son temps, bien des heures, il est là au rendez-vous 3 heures avant le repas, d'accord, ça fait un bon repas, c'est doux. C'est agréable, c'est vrai. Et si tu aimes quelqu'un, tu dis, allez hop, McDonald's, 500 francs, boum, 5 francs, boum, bah, suivant. Bon, bah, c'est pas fait. C'est l'usine. La prudence, on est à l'heure. C'est curieux parce que le McDonald's, c'est vraiment une caricature, hein, faut bien dire. Puisqu'on va au McDonald's pour gagner du temps. Espèce d'extraordinaire caricature. Et moi j'aime beaucoup ce que dit Saint-Benoît. Si vous êtes à l'heure, rendez-vous, et moi je me rappelle très bien, c'est un grand bénédictin, un immense bénédictin, que j'ai bien connu. Et il disait, demain, la messe est à 8h. Eh bien, il était évidemment là à 7h. Mais si on arrivait à 8h moins le quart, qu'est-ce qu'on se faisait engueuler? C'est-à-dire un quart d'heure avant. C'est arrivé déjà un quart d'heure d'avance. Ça, c'est typiquement bénédictin. Tu arrives avant l'heure. C'est ce qui montre bien qu'à Montpellier, on n'est pas tout à fait dans le style. Parce que c'est le quart d'heure Montpellier, hein, c'est la merde, c'est pas bon. Alors, donc la prudence, vous voyez bien que la prudence, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'effectivement, il ne faut pas trop être candide, quoi. Hein. Allez, on arrive, il ne faut pas rajouter, et puis tout se passe, boum boum. La prudence, c'est de choisir les moyens les mieux adaptés par rapport à l'amour absolu dans lequel on veut s'être englouti. Et donc l'amour absolu dans lequel on veut être englouti, c'est pas un amour d'énergie, c'est pas un amour panthéiste, c'est pas un amour de l'unité du tout. C'est pas l'éther, c'est un amour cordial, c'est un amour humain. Et l'homme est un être de chair, de sang et d'esprit. C'est pas un être de nuages, de brouillard. L'amour du brouillard. C'est extraordinaire, l'amour du brouillard. Je suis en retard parce qu'il y avait du brouillard. C'était ça, je suis en brouillard parce qu'il y avait du retard. Il y avait du brouillard. Il y avait du brouillard dans ton cerveau, oui. C'est là où il y avait du brouillard. Alors, c'est extraordinaire, cette règle. Et vous remarquerez, hein, vous remarquerez. Allez, par exemple, avec Jésus, être à l'heure avec Jésus. On a un rendez-vous du matin. On a un rendez-vous du soir. On a un rendez-vous pour la messe. Tu te rends compte? La Vierge Marie était à l'heure. Elle a précédé le Christ de 15 ans. La grâce chrétienne a précédé l'incarnation de 15 ans. Elle est venue 15 ans avant. Marie toujours avant, hein? Elle est toujours avant. Elle précède toujours. C'est ça la douceur, vous voyez, la prudence même. C'est là qu'on voit que la prudence est un mot vraiment ignoble, un mot qui n'est pas très plaisant. Mais il correspond à une réalité extraordinaire. c'est ce qu'on appelle la royauté, la majesté, la douceur, la splendeur. Voilà, quelqu'un qui est très prudent, c'est ça. On ne donne pas l'autorité, par exemple, dans une société, une communauté, une entreprise, à un fonceur. C'est ce qu'on dit toujours, on ne donne pas l'autorité épiscopale à un saint. Souvent, les saints sont des fonceurs. Alors, on ne leur donne surtout pas l'autorité. Il vaut mieux que ce soit des gens doux. Des gens qui sont là, et qui sont à l'heure. Vous vous rendez compte, c'est pour la cérémonie pontificale. Il arrive systématiquement, 2 heures après. Quoi. Comme les fidèles, comme certains fidèles. C'est dramatique. Donc là, mais la prudence, vous voyez, dans les rapports tout simples qu'il y a à la maison, on est là quand il faut. Et on est là même un petit peu avant le moment où il faut. On précède, vous voyez ? Ça montre que vraiment il y a de l'amour, puisque l'amour fécond va au-devant de l'autre. Si on est toujours en retard, c'est qu'on est toujours après. Donc on ne l'aime pas. On veut être, nous, celui qui passe devant. Donc il n'y a pas d'amour. C'est l'imprudence, c'est un signe de non-amour. La force, ça correspond donc à la profondeur. On en était là. La profondeur. Quand c'est très profond, la force, la vertu de force, le don de force, bienheureux, les affamés, les creusés, les assoiffés, les... ceux qui creusent leurs désirs, s'intéressent à l'enfant Jésus. C'est la force. C'est l'enfant. Espèce d'extraordinaire profondeur du cœur, de l'amour. Alors à ce moment-là, ça s'enracine très très profondément, ça va très très loin. Et les horizons intérieurs, du coup, donc, s'élargissent. L'intensité prend une telle place que l'amour va jusqu'à dans toutes les grandes profondeurs des horizons de notre intériorité cordiale. Alors à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui nous dit « espèce d'imbécile », ça ne nous énerve pas du tout. Tiens, un moustique. Tandis que si tu n'as aucune profondeur, le premier qui arrive pour qu'il t'énerve, tu t'impatientes, tu murmures, tu dis « qu'est-ce que je suis là, mais qu'est-ce que je lui ai fait ?» Et puis finalement, voilà. Aucune force dans le cœur, aucune profondeur dans le cœur. Critique, la réponse, les mécanismes de défense, entièrement psychique, le type. Alors, vous voyez, autant la prudence, ça vous met dans les terres, si vous ne l'avez pas, autant la force, ça vous met dans la critique, le murmure. Et Saint Benoît disait bien, attention, hein, s'il y a le murmure, ça c'est sûr qu'il n'y a pas la force. Donc, il n'y a pas le degré d'humilité non plus. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, cette espèce de force. Et c'est des vertus, ça y est, qui se cultivent au mois de juin, ça. C'est le mois du Sacré-Cœur. Donc c'est le mois du jardin, des fleurs, du cœur. Les vertus, les qualités profondes du cœur, les qualités permanentes. Parce qu'à chaque fois que je fais un effort pour être, non pas à l'heure, mais un peu avant, à ce moment-là, je fais une fois l'effort, deux fois l'effort, trois fois l'effort pendant le mois de juin. Enfin, disons, 7 fois par jour, donc 3 fois 7, 21, 210 fois dans le mois de juin. C'est extraordinaire. À la fin du mois de juin, ça y est. Une douceur coule de l'aspect un petit peu sec de mon cœur, du miel finit par couler. C'est extraordinaire. Et pour toute l'année. C'est ça qui est merveilleux. Et la force aussi, il faut faire des actes de force. Donc dès que je commence à repérer un petit murmure qui monte dans ma tête, la seconde pas envie, hein, ici personne, bien entendu, hein, strictement personne n'a ce genre de problème. Bon. On est très constant dans ses choix, dans ses affectifs, ses décisions. On ne change pas d'avis au bout de chance. Il y a un moustique qui est passé, ou je sais pas quoi. Hein? Non, mais ici, personne n'est effleuré par ce défaut. Donc, on va passer vite à la troisième vertu cardinale. Et on va faire des efforts, on va faire des efforts, on va faire des efforts pour être fort intérieurement. Manque de force, c'est terrible le manque de force, n'empêche. Le manque de force dans l'amour, c'est quelque chose d'embêtant, tu comprends? Parce que, alors, ça, vous voyez, c'est un manque, ça prouve qu'ici, il y a un manque de profondeur. De très grande profondeur, un manque d'unité, un manque d'harmonie, un manque de... Parce que l'harmonie est quelque chose de profond du point de vue affectif. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. On est équilibré, mais on n'est pas harmonisé. C'est toute la différence qu'il y a entre l'équilibre que les médecins essaient de vous apporter, ou les psychologues, et l'harmonie que l'amour vous apporte, parce que l'harmonie de l'amour, la force, nous donne une unité profonde. Parce que l'unité, c'est très profond. Ça ne peut pas être périphérique, l'unité, l'un. Alors, il faut faire des efforts pour retrouver son unité intérieure. Et cette unité intérieure est dans la très grande profondeur, ça se trouve dans le silence. Vous voyez, comme on retrouve Saint-Benoît, c'est extraordinaire. Le contraire du murmure, des actes de silence, d'oraison, pour trouver la profondeur de l'amour. Et puis, il durait. Et creuser. La vertu de justice, qui est la troisième vertu cardinale, et la quatrième vertu, vous le savez, c'est la vertu de tempérance. Ce sont des fleurs qui se cultivent pour le moins du Sacré-Cœur aussi. Très intéressant. La vertu de justice, c'est le fait d'être ajusté aux autres. D'être ajusté. Vous voyez, c'est un petit peu différent de la vertu de prudence. C'est pas tout à fait la même chose. La vertu de prudence, c'est qu'on est ajusté aux circonstances et au temps. Tandis que dans la vertu de justice, notre amour, il est droit. Et autant dans la vertu de prudence, notre amour est très souple, c'est la douceur. Autant dans la vertu de justice, l'amour est splendide, il est droit. Tu es ajusté à l'autre, tu es ajusté, tu regardes, tu es entièrement préoccupé. Il y a quelque chose qui fait que tu es entièrement oublié. Tu as oublié qui tu étais, tu as oublié. Tu oublies où tu es, tu oublies ton intérêt. Tu ne regardes qu'une seule chose, c'est ce que l'autre réclame. C'est ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il n'a pas et qu'il devrait avoir. C'est ça la vertu justice. Tu es ajusté au besoin normal de l'autre. Et l'autre a besoin de toi. Et c'est normal. Quelqu'un est en train de mourir, il a besoin que tu viennes à côté, le visiter et que tu pries à côté de lui. Que tu fasses comment vous appelez ça, hein, l'accompagnement du mourant, là. Pas que tu fasses l'accompagnement du mourant, c'est-à-dire que tu lui fasses faire un petit travail de deuil avec musical, calmos, calmos, silence, nuit. Maintenant on se tait, et une fois que ça y est, alors on se tait, donc tu es terminé. Et une fois que ça y est, tu t'es calmé, tu as accepté de te taire, tu fais plus rien, voilà, tu peux mourir. Je l'ai aidé. C'est injuste ça. Elisabeth Kubler-Ross. C'est dégueulasse. Là, il faut que je prenne la vertu de force. Pour pas murmurer, mais quand même, la vertu de justice. Doit détruire le mal et se donner à l'autre parce qu'il a besoin et c'est son bien. Quand il n'en peut plus, il a besoin de quelqu'un qui lui parle, il a besoin de quelqu'un qui prie. Vous savez, l'accompagnement des mourants, je ne sais pas, il y a des gens qui arborent des tas de petits insignes là pour l'accompagnement des mourants dans les hôpitaux. Eisemann de paroisse, tout ça, hein, ça, très chic, hein, très chic. Mais je ne sais pas, j'ai toujours été extrêmement mal à l'aise, personnellement. Je me suis toujours posé la question pourquoi Elisabeth Kubler-Ross, avec son histoire de travail de deuil, lorsqu'elle place le travail de deuil au plan, justement, du détachement et de l'accomplissement, donc dans le silence des énergies, pourquoi est-ce que c'était si mauvais que ça? Toujours senti le souffle dans cette histoire. C'est tellement parfait, c'est vrai. On arrive à permettre que la personne, par ce système-là, passe la colère, l'exprime, qu'elle puisse exprimer ses larmes, qu'elles soient reçues, qu'elle rentre tout simplement dans l'acceptation, et elle passe dans l'acceptation, enfin. Elle s'offre, elle offre tout, et elle abandonne. Et elle trouve une paix. Voilà le processus, hein. Travail de deuil, un processus où vous êtes simplement là pour permettre à la personne de dégueuler les différentes trois étapes du processus du travail de deuil. Étape, donc, psychologique. Hein. Est-ce que c'est ça la vertu de justice? Être ajusté à quelqu'un qui a mal, qui souffre, qui meurt. Mais c'est magnifique, et ces gens font des stages dans les paroisses, etc. Cateau branché. Ouais. Moi, je sais pas, je réfléchissais. Je vous dis simplement, réfléchissez. Ce que c'est que la vertu cardinale de justice. Et peut-être que nous comprendrons à ce moment-là pourquoi ça va pas. Parce que quand tu meurs, je prends c'est juste un exemple, hein. Parce que quand tu meurs, tu n'as jamais vécu le coma ou tu as fait un accident, quoi. Jamais. Tu n'as jamais eu, toi? Jamais. Quand tu meurs, tu as... Il y a un phénomène extrêmement particulier. Là, ce matin, nous étions avec Françoise, donc qui vient de mourir. Et donc... Vous voyez le visage de Françoise. Donc, le visage de Françoise, c'était un visage serein, certes, mais les yeux à demi ouverts comme ça, beau, en plus. Mais c'était le visage donc d'un corps qui était mort, cadavérique. Mais beau. Oui, certainement. Et quand tu vois le corps, tu as déjà vu hein, le corps de quelqu'un qui vient de décéder. Quand tu vois le corps, tu essaies d'imaginer, de te mettre dans la peau du bonhomme qui est là, si je puis dire. Et tu t'aperçois que ce corps ne peut plus faire d'acte, ne peut plus bouger. Alors, je crois que c'est facile à comprendre. Eh bien, l'âme, c'est-à-dire qui est séparée du corps, l'âme de celui qui meurt est dans le même état. C'est-à-dire qu'il ne peut pas produire d'acte. Il est trop fatigué. Il est trop épuisé. Il est trop mort. Et il a besoin de personnes qui se donnent à lui, par l'âme, justement, pour faire les actes anagogiques qu'il ne peut plus faire. Et je vais faire des accompagnements de mourants pour entourer d'une odeur de mort le mec qui n'a plus aucune force. C'est épouvantable. Alors vous allez me dire, bon, attends, je vois que vous comprenez. Je vais m'expliquer encore plus clairement. La vertu de justice, c'est drôlement important la vertu de justice. Vous voyez, c'est dans des cas limites comme ça. Qu'on voit que le monde d'aujourd'hui, avec ses sincérités successives, tue. Et en plus, avec une pleine conscience. Alors, il faut leur mettre en plus des décorations. Oh, formidable, c'est admirable. On va vite vous donner le sacrement de confirmation. Enfin, ça, je ne sais pas si c'est en leur dit ça. Enfin, bon. Supposer que le sacrement de confirmation soit une décoration pour ceux qui font le bien, n'est-ce pas? Bon, heureusement que c'est pas ça le sacrement de confirmation. C'est rien à voir. Je viens de faire une bêtise parce que je fais un aparté qui n'a rien à voir. Rien. Bon, donc je reprends. Donc, quand tu meurs, il faut savoir ça. Je me rappelle que quand j'ai été petit, ma maman m'a fait baptiser. Et je ne pouvais pas faire d'acte de foi. Et elle a choisi comme parrain pour mon baptême un homme qui n'était pas croyant, qui était athée. Mais il avait une qualité, c'était évidemment de ma vie, je crois que je n'ai encore jamais rencontré. Je crois que j'ai rencontré pas mal de bons hommes dans ma vie. Je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait la vertu de justice au degré de cet homme. Il avait la vertu de justice de manière extraordinaire. Mais il disait, moi, ma femme est croyante, mes amis sont croyants, moi, je ne peux pas y arriver. Je voudrais bien pourtant. Je ne peux pas y arriver. Donc, il est le parrain. Et il dit, bah, pour le parrain, ce petit... On ne peut pas dire le credo, je crois en Dieu le Père, je crois en son Fils Jésus-Christ, mort, ressuscité d'entre les morts, je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique. Il ne peut pas dire ça ce bébé, moi non plus je suis athée. Mais puisqu'il ne peut pas le dire, je suis parrain, je vais le dire en son nom, à sa place. Donc la seule fois où il a dit le credo de toutes ses forces, de sa vie, c'était à mon baptême. Tout le monde me témoigne encore aujourd'hui, parce que c'est quand même vieux, parce que vous savez, je suis vieux. Et c'est admirable. Cet homme aussi, c'est le credo. Il le disait avec une très grande, une parfaitement ajustée à la circonstance et au sacrement, pour lequel, pour le coup, il n'avait aucune adaptation intérieure quant à lui. Ordinaire la vertu de justice. Alors quand il est mort, il avait des enfants, n'est-ce pas? Il avait des enfants. Il avait une femme. Les enfants n'étaient pas là, ils ne sont pas venus. Sa femme était fatiguée, était allée se coucher, et je suis arrivé après la mort. Donc j'ai veillé mon parrain. Un type merveilleux, il s'appelait, je porte son prénom d'ailleurs, Victor. Victoire. Et alors, il était là, sur le lit, je me rappellerai toujours. Et il m'a dit, très bien, il était là. Et je me suis mis à côté de lui. Et puis, j'ai compris, je ne sais pas comment vous exprimer ça, j'ai compris qu'il était là, que l'âme était restée. J'ai compris qu'il était encore là. Le corps était là, mais lui aussi. Bon. Alors, du coup, on a causé. Alors, j'ai dit, écoutez, vous avez commencé le rosaire, vous avez dit le credo, hein, il n'y a pas longtemps, donc, eh bien, on continue. Maintenant, eh bien, je vais, puisque lui, il ne peut plus poser d'actes, comme moi, bébé. Il ne peut plus, comme son corps, son âme ne peut plus poser un seul acte. Extraordinaire, cet état de vitalité, de désir, d'attente, qui ne peut être actué dans un acte de vie intérieure et personnelle que si quelqu'un d'autre vient vous aider. C'est ça qui se passe après la mort. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer d'idée après la mort. On ne peut pas changer d'opinion après la mort. On ne peut pas changer de goût après la mort. Sauf si quelqu'un vous aide. Alors, je dis, bon, ben voilà, on va... Je lui ai expliqué, je lui ai dit, vous voyez, et allez, on va dire... on va rentrer dans, dans le mystère de l'incarnation, le Verbe de feu du chair. Alors, je me mettais dans son âme et je contemplais. Du coup, son âme contemplait. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis, on est passé par le premier mystère, le deuxième mystère, le troisième mystère. Et alors, lui, il me disait, enfin, il me le disait pas. Il me disait, mais plus tard, j'avais jamais vu ça, mais c'est génial, mais c'est extraordinaire. Et nous sommes passés comme ça, et il est passé comme ça au 15e mystère. Au 15e mystère, whoop, il est parti au ciel. Hein? On va expliquer ça à Elisabeth Kubler-Ross. L'autre jour, j'étais... Vous voyez, on fait de la philosophie ici, c'est pour ça qu'on fait de la philosophie de l'expérience. On a le droit de parler de ces expériences religieuses, hein. Ça fait partie de la philosophie, ça. Là, c'est humain, ça. C'est humain, parce que j'aurais très bien pu lui apporter quelque chose d'autre. Donc, Elisabeth Kubler-Ross, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte son potentiel de richesse qu'elle a, qui est une richesse métapsychique. Mais ça pisse pas loin pour quelqu'un qui meurt. Ouais, c'est vrai que ça va pas très très loin, moi je trouve. Enfin bon, peu importe. Bon, une autre expérience qui me vient, mais je fais appel, c'est pour ça ce que je voudrais ici, c'est vous éveiller donc à la philosophie. Hein. Donc la philosophie, on a le droit en philosophie, on est très large en philosophie, on prend toutes les expériences chrétiennes, les expériences mystiques, même surnaturelles, comme les expériences les plus simples, toutes. Or, vous savez, rappelez-vous vos propres expériences analogues, hein, vous pourriez... Mais simplement, il faut apprendre à les analyser, puisqu'ici, on essaie de regarder la vertu de justice, hein, c'est bien ça qu'on cherche. Je dis, j'étais à la clinique du parc, donc un merveilleux médecin est venu avec des scalpels, des tas de ciseaux, des couteaux, tout ça, bon, très bien. Puis là, bon, ouvert la bouche, bon, heureusement, Dieu seul, oui, j'étais endormi, là, bon... Et crap, il a enlevé plein de trucs, il a coupé, il a enlevé, enlevé les glaires, enlevé la mousse, enlevé enfin, toutes les putréfactions qu'il y a là-dedans. Et putain, d'habitude, ça me prend 5 minutes, là, ça m'a pris 2h30. Et enfin, bref, je suis sorti de là, lui était épuisé, mais alors moi, n'en parlons pas, c'est ça. Donc, ça faisait mal tout ça. C'est mal. Donc quand je me réveille, ça fait mal. Les infirmières très sympas, qui pratiquent la vertu de justice, ne me donnaient pas de classe. Alors qu'elles savent très bien que dans ces cas-là, il faut donner de la classe. Ça, c'est leur métier, je veux dire. Moi, je sais depuis que j'ai l'âge de 6 ans qu'il faut donner la classe aux gens à qui on enlève les végétations, les amygdales, ou à qui on fait les ablations de la peau, de la gorge. Donc, alors elles le savaient bien. Donc il a fallu que j'attende 2 jours avant de pouvoir prononcer le mot glace. Alors, oui, on sait bien, oui, mais pendant ce temps, j'étais, à un moment donné, quand j'avais mal, donc c'est curieux, il m'a semblé, c'est ça qui m'a fait comprendre, disons expérimentalement peut-être, qu'est-ce que c'était quelqu'un qui était en train de mourir, puisque à un certain moment, j'étais un petit peu à la limite d'évanouissement, donc des fois. Eh bien, j'étais dans l'état que je vous décrivais tout à l'heure, à savoir que quelqu'un qui est en train de mourir, il est là, et nous, on pense qu'au moment où on va mourir, on va prier, tu sais, avec une puissance, avec une force, on va dire que j'ai toutes les prières, toute notre foi, Jésus, Marie, Joseph, etc. On va dire les neuvaines de l'enfant Jésus de Prague, on va faire la 21e à Sainte Rita, et puis on va surajouter avec plein de trucs, on va se faire des onctions, on va prendre ici le mouchoir de San Damiano, on va prendre la... Tu parles là, rien du tout. Rien. Même tu penses à rien, tu peux rien penser. Tu peux produire aucun acte. Et tu te rends compte que tu ne peux même pas produire un acte. Et tu dis, merde. Rien. Tu ne peux rien faire. Pas même sortir un désir de prière. Même pas. Tellement tu es... C'est C'est pour ça que je te disais, regarde un cadavre et tu vois l'état de l'âme. Il ne faut pas oublier que la mort est l'expression la plus ardente de l'unité de l'âme et du corps. Alors, c'est pour ça, tu comprends, que si tu accompagnes des mourants en disant, ben voilà, tu vas le laisser dans son truc. Ah oui, les mecs, mais oui, c'est normal, tu es en colère, maintenant, pleure bien, etc. Et puis, voilà, on est face à la, dans la molasse métapsychique. Hein? Voilà, on déboutonne bien les chakras autant qu'on peut, parce que là, c'est facile à déboutonner les chakras. Hein? Et puis voilà, une fois que le type, il est là, installé là, oh, terminé. Plus aucune possibilité pour lui, face à la mort, de faire un acte anagogique. Hein? Et s'il n'avait pas eu l'accompagnement des mourants, il aurait pu faire quelques actes anagogiques quand même. Hein. C'est-à-dire un petit acte, de dire Seigneur, moi je te demande pardon, hein, de lucidité sur toute sa vie, de compression, d'angoisse métaphysique, qui du coup l'oblige à passer du moins du psychologique à un point de vue spirituel. C'est-à-dire à un point de vue humain. Ça c'est clair, ça. C'est pour ça que, vous voyez, on va dans les hôpitaux, on va, moi je trouve ça très bien qu'il y ait beaucoup de personnes ici qui vont dans les hôpitaux, qui voient les malades, qui les entourent et qui leur proposent tout le temps la prière. Parce qu'effectivement, c'est extraordinaire, c'est la chose que nous pouvons désirer la plus ardente, c'est que quand nous allons, nous, ce sera notre tour de mourir, et qu'on prévienne déjà notre entourage, dit, mais je vous en supplie, mettez-vous autour de nous et dites, je vous salue Marie, hein, allez-y. Hein. Dites, je vous salue Marie. Parce que alors là, là, tu peux pas aller dire. Il était bien content que, voilà, là au moins, voilà. Et combien de fois d'ailleurs tu as demandé que la Sainte Vierge Marie soit là à l'heure de ta mort, d'ailleurs, en plus. Maintenant et à l'heure de notre mort. Donc quelque part, il faut prier, il faut que des gens vous entourent pour prier. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est ça la vertu de justice. La vertu de justice, c'est qu'on est ajusté au bien de l'autre, hein, à son besoin. On n'est pas ajusté à notre petit truc, notre petit travail de deuil, notre technique à nous, pour que la mort ne nous effraie pas, nous, les vivants. C'est une forme d'avortement, hein, finalement. Ça va ensemble, c'est la même spiritualité. Hein. Infirmières, elles doivent savoir ça, les infirmières. Les infirmières, il faut qu'elles sachent qu'il ne faut pas qu'elles fassent cette histoire de travail de deuil comme ça. Les infirmières, il faut qu'elles sachent que, voilà, qu'elles prient. Alors comment elles vont faire? Elles vont faire, ben, si elles n'ont pas le droit, elles ont toujours le droit de dire, si vous voulez, on va prier, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Si la personne, elle dit non, elle dit, elle peut redemander une deuxième fois. Ne vous inquiétez pas. Elle dira oui la deuxième fois. Et si elle dit oui la première fois et non la deuxième fois, et elle revient la troisième fois. Et puis en même temps, elle peut prier intérieurement, se placer dans l'âme de sa personne qui est là, en la touchant tranquillement, dire un je vous salue Marie intérieurement, en se mettant à l'intérieur de l'âme de l'autre. Hein, pour réveiller quelque part, c'est curieux parce que quand vous priez avec quelqu'un qui n'a plus aucune force, vous entendez ? Qui n'a plus aucune possibilité de poser un seul acte, même de désir de prier. Si vous vous mettez ainsi à prier en elle, avec elle, vous vous rendez compte que d'un seul coup, c'est tous ceux qui veulent visiter malade, elle commence à prier elle-même. C'est extraordinaire, cette communication de la vie spirituelle, de la vie du cœur, de la vie de l'homme. Et psychologiquement, il n'y a aucune possibilité de vie nouvelle. Et là, si vous priez, il prie. Il prie lui-même avec ses lèvres, il commence à prier. Alors que ce n'était pas possible, sinon. On ne peut que le constater, ça c'est l'expérience de tous les gens qui sont en train de mourir, sans exception. Il n'y a pas d'exception, pratiquement. Donc il ne faut pas se tromper de porte. La vertu de justice est une vertu très, très extraordinaire. Le contraire de la vertu de justice, c'est la peur et la lâcheté, la pusillanimité, les faux prétextes, si vous voulez. pusillanimité, c'est quand on prend des petits prétextes, rien du tout. Peut-être que, je sais pas si c'est bien, que. Peut-être que c'est contraire à sa liberté. Enfin, c'est contraire à sa liberté de réveiller sa. Hein? Hein? Bon, très bien. La vertu de tempérance, c'est la quatrième vertu cardinale. Quatrième vertu cardinale, une vertu très très belle, très extraordinaire. Voyez, qui est exprimée par le lys, par la cinnamome. D'ordinaire par les fleurs de couleur blanche. Mais le lys, parce qu'il y a de l'or dedans et que c'est une odeur extrêmement suave. C'est une odeur transparente, pour ainsi dire. Il y a ces odeurs extraordinaires de fleurs. La fleur du lys a quelque chose d'extraordinaire. Une fleur qui a une odeur transparente, translucide. La tempérance permet à notre amour d'être pur, si vous voulez, d'être sans mélange, d'être sans compromis. Il n'y a que de l'amour, il n'y a pas d'intérêt. Je ne cherche pas à faire ma vie. Quelqu'un qui cherche à faire sa vie, c'est quelqu'un qui vit au même niveau du point de vue d'affectivité que l'hippopotame, pas plus. C'est l'hippopotame. Ou l'hippopotamesse, hein, au choix. Sa vie, voilà. C'est la vertu de tempérance, c'est ce qui caractérise l'homme. Vous mettez un chien, il n'est pas caractérisé par la vertu de tempérance. Vous mettez un aigle, même les plus nobles, hein, parmi les animaux, la vertu de tempérance, vous ne la trouverez pas. Ni du côté de la conservation du manger, ni du côté de la reproduction. Il n'y a pas de tempérance. La tempérance, c'est ce qui caractérise l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il a un cœur et qu'il aime. Et que son amour est sans mélange. Parce que c'est un homme. Alors, du coup, il y a la chasteté. Du coup, il y a l'esprit de Virgile. Du coup, il y a ces sacrifices qu'on fait sur la télévision. Vous voyez, sur l'engrangement, la gourmandise des yeux, la gourmandise de la langue. On mange du fromage de gruyère à tire-larigot. Et en plus, s'il est fondu, on en mange deux fois plus. Extraordinaire, cette histoire. Donc la tempérance, c'est quelque chose de très très extraordinaire parce que c'est un amour donc qui devient contemplatif, c'est un amour qui devient transparent, c'est un amour qui devient pur, c'est un amour qui devient rempli d'élan. Et il faut faire des actes de tempérance. Ah, au mois de juin, il est là pour ça. On va faire des actes de tempérance pour rentrer dans le désir de ne plus faire sa vie. Moi, j'ai bien le droit de faire ma vie. Alors, comment ça? Je parle de l'expression d'aujourd'hui, hein, parce que c'est tout ce qu'il y a derrière. Faire ma vie, non. Mais, pas être cinglé, je veux dire. Faire sa vie. Ça veut dire quoi, faire sa vie? Faire sa serpillière, tu veux dire. C'est pas faire ça. On fait, au contraire, on réalise l'appel profond que nous avons à aimer, c'est tout. Et donc ça implique une intention pure. Si tu as une mauvaise intention, c'est plus d'amour. Si ton intention est dirigée par rapport à ta vie, ça n'a plus rien à voir avec l'humain. Ça a à voir avec, je te dis, avec le chien qui se précipite sur sa gamelle. Et si c'est un homme, ça ressemble plus à un chien qui se précipite sur son vomi. Le pire de tout, c'est que les gens qui disent « je veux faire ma vie », c'est en général quand ils ont fait quelque chose en voulant faire leur vie, que ça a été dégueulé, c'est transformé en vomi, ils se retournent vers le vomi. Exprès. Faut être maso. Bon, c'est leur problème. Les quatre vertus cardinales sont des vertus, vous voyez, que le philosophe, qu'Aristote, Platon, Pythagore, enfin, qui sont des philosophes, que la sagesse orientale, occidentale, tout le monde est d'accord que c'est ça qui fait qu'on est humain, quoi. Donc c'est quelque chose de nécessaire de cultiver ces vertus si on veut être humain. Ça n'a rien à voir avec être chrétien, ça. Strictement rien à voir avec être chrétien. Ah, t'avais pas pensé à ça. Par contre, dès qu'on a découvert l'existence de Dieu, à ce moment-là, on devient humble. Puisque vous voyez, ce sont les quatre préliminaires pour rentrer dans l'humilité. Alors là, j'espère que vous avez tous réfléchi, médité sur la manière mystique de rentrer dans l'humilité profonde, d'après la mystique de Saint-Benoît, ce que nous avons vu la dernière fois. C'est pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur de rentrer dans cette révélation exceptionnel, il y a des cassettes extrêmement intéressantes sur la question. D'ailleurs, que je vous recommande d'ailleurs, parce que comme vous pouvez vous en douter et comme vous pouvez le constater, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Ça, sur l'humilité, vous ne pouvez pas savoir comment on est foutu. Hein. On est fabriqué d'une manière extraordinaire. C'est parti. C'est tellement commode. Une faculté d'oubli sur les choses, c'est un petit peu... On ne veut pas être humble. On n'en veut pas. Hein, Geneviève ? On n'en veut pas. On n'en veut... Alors, on oublie. Ah, c'est très extraordinaire. Oui, on veut, mais on oublie bien, vite. C'est pour ça que je vous recommande de reprendre... vos notes, etc., vos prières là-dessus, vos découvertes là-dessus, les cassettes si vous voulez, parce que vous n'avez malheureusement pas pu assister à toutes les méditations. Alors, tout ça pour vous dire que, je ne sais pas pourquoi je dis ça, que c'est noté au mois de juin, ce que vous saviez déjà. Voilà. Donc, est-ce que vous avez, c'était mon introduction à notre petit après-midi, il est 4 heures déjà. Et est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous voulez qu'on aborde un sujet cet après-midi ou est-ce qu'on continue et qu'on clôture notre année sur la métaphysique?
Vous avez trouvé attitude pour faire le stage pour accompagnement au camp Béatitude ou au camp de Béatitude?
Ah, mais Béatitude, c'est merveilleux, c'est très bien les Béatitudes, hein, puisqu'ils vivent des Béatitudes. Donc s'ils vivent des béatitudes, il n'y a pas de problème. Bienheureux les affamés et soif faits de justice. Ça, c'est voilà pour l'esprit de force. Hein, bienheureux les cœurs purs, voilà pour la tempérance. Bienheureux les persécutés, hein, voilà pour la vertu de justice, justement. Et pour les bienheureux les miséricordieux, ils vivent de ça. Hein. Aux béatitudes, ils savent très bien, ils ne sont pas complètement idiots. Enfin, je suppose. C'est dans quel prieuré des béatitudes? Accorde. Oui, ça devrait aller, accorde. Corde, cuque, c'est pas mal. Oui. Mais c'est-à-dire, le problème, c'est... Si, accorde, ça va. Parce qu'il y en a, effectivement, dans les béatitudes qui disent, bon, ben, c'est génial, cette histoire de travail de deuil, hein, de EKR. Allez, hop, on va faire un stage là-dessus. Voilà. Et ils répètent, mais à ce moment-là, ils ne se rendent pas compte du piège. Mais à Corde, c'est pas de problème. À Cuc non plus. Ils sont quand même armés, à Cuc. Hein. Ils sont même spécialisés sur la question, si je puis dire, de la différence qu'il y a entre le travail métapsychique de deuil, en deuil, le travail métapsychique du deuil et le travail spirituel du deuil. Hein. Oui, ce que nous avons fait d'ailleurs en PPP 3. Hein? Quand nous avons fait les lundis l'année dernière en PPP 3, c'était là-dessus. C'était de regarder la différence qu'il y avait entre le travail métapsychique du deuil, gestion des émotions, et le travail donc spirituel, psycho-spirituel du deuil. Hein? Je viens de Rome, n'est-ce pas? Je reviens de Rome. J'étais à la canonisation de Saint-Jean-Gabriel. Saint-Jean-Gabriel, qui est quelqu'un de ma famille. C'est pour ça que je suis allé. J'ai eu la permission de mes supérieurs de me rendre à Rome. J'ai eu la permission une heure avant de partir, donc c'était raté puisque j'ai eu la permission une heure avant l'heure de la messe de canonisation par le pape à Rome. Mais du coup, je suis parti quand même parce qu'une canonisation, ça dure 2 jours. Alors, du coup, je suis arrivé le soir, j'ai quand même eu les célébrations du lundi. Hein, c'est merveilleux. Ben, Saint Jean Gabriel, il c'est vraiment un grand saint. C'est vraiment un grand saint parce que il était... Et puis c'est touchant, vous voyez, parce que c'est Saint Jean. C'est Saint Jean. Et puis c'est Gabriel. Gabriel, c'est l'annonce. Et quand Saint Jean donne la grande annonce, c'est l'Apocalypse. Hein. Donc quand Saint Jean se fait Saint Jean Gabriel, c'est l'annonce dernière. Il y a quelque chose de très fort dans son histoire, dans cette histoire. Et effectivement, sa vie, c'est le premier saint. Que nous attendions depuis 2000 ans et qui est le premier saint pour la Chine. Il est évidemment d'origine française, nationalisé chinois, ce qui fait que c'est le premier saint de la Chine. Il est parti au même âge que le Christ de sa terre, c'est-à-dire vers 36 ans. Il est parti évangéliser comme le Christ 3 ans. Il a été missionnaire 3 ans. Avant de partir là-bas, il était professeur, devinez de quoi ? De philosophie. Professeur de philosophie. Mais comme quoi, la philosophie, ça aide. C'est extraordinaire de voir comment le Saint-Esprit montre que sur la fin, il faut la philosophie. Parce qu'il met un pape philosophe, il met des congrégations de philosophes, et il met des saints philosophes. Et il fait des groupes de philosophie. C'est Saint-Esprit qui fait ça. Nous, on n'y est pour rien. Bon. C'est quand même que cette histoire. Bon. Alors, il part, bon, comme le même que le Christ a fait 3 ans d'apostolat, de vie apostolique, il a eu 3 ans de vie missionnaire. Il a été trahi comme Jésus par l'un des siens. Il a été trahi par l'un des siens, un des catéchistes, qui l'a trahi d'ailleurs plus par terreur que par intérêt, mais qui a été payé 30 unités ducales, comme Judas a été payé 30 unités du temple de Jérusalem. Il a été crucifié. Et ils en ont eu marre, et donc ils l'ont étranglé sur la croix. Il est resté, c'était un vendredi, après-midi, à 3h, hein, entre 3h. L'obscurité était profonde sur ce lieu. C'était pas sur toute la terre, j'en sais rien, c'était en 1840, je ne pouvais pas vous en témoigner. Donc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est resté sur la croix, et on ne l'en a retiré que le 13 septembre, qui est l'année, comme vous savez, mais ça n'a rien à voir, de mon ordination. C'est le jour de mon ordination, ça. Ça sert d'otale. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est le 13 septembre qu'il y a les premières vêpres de la croix glorieuse. Et effectivement, quand il était donc sur sa croix, qu'est-ce qui s'est passé, donc le 13 septembre, la croix glorieuse est apparue dans le ciel, lumineuse, éclairante. Elle a été vue jusqu'à Pékin. Or, on était à plusieurs centaines de kilomètres de Pékin. C'est extraordinaire. Alors, à Rome, il y avait les lazaristes, parce que c'était un frère lazariste. Bon, je vous passe plein d'autres choses, des petites histoires de sa vie qui montrent que c'était vraiment un saint. C'était un vrai saint. Enfin, priez-le, parce que... Oui, enfin, oui, priez-le, tout à fait. C'est vraiment le saint pour la... Jésus avait dit, du reste, que... Le signe du Fils de l'homme se verra dans le ciel, de l'Orient jusqu'à l'Occident, et tous les hommes le verront. Et quand Jésus parle de ça, il parle donc d'une croix glorieuse. Et c'est ce que répète d'ailleurs saint Jérôme, saint Irénée, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, etc. On sait que le signe du Fils de l'homme que tous verront de l'Orient à l'Occident, c'est la croix glorieuse. Or voilà que à l'Orient, c'est donc avant-hier, enfin je ne sais plus quand, c'était donc lundi, le 2 et 3, qu'il y avait la canonisation. Alors, vous voyez, c'est un signe eschatologique. Il faut pas c'est le premier saint de Chine, vous rendez compte, il ne faut quand même pas oublier. Bon, je sais pas, c'est ce que disait le pape quand il est venu à Ars. Il a dit, n'oubliez pas que depuis environ 10 ans ou 20 ans, je crois, je sais plus, depuis 15 ans, je crois qu'il disait, quand il était venu à Ars, il a dit, n'oubliez pas que depuis 15 ans, il y a deux fois plus d'hommes sur la terre qui ne reçoivent pas le message évangélique. Le nombre de ceux qui ne reçoivent pas le message angélique a été multiplié par deux sur toute la terre depuis 15 ans. C'est ce qu'il disait le pape à Ars. Oui, tout à fait. La Chine fait partie, vous voyez, de ces peuplades qui n'ont pas, qui sont malheureusement. Alors c'était beau de voir les Chinois qui étaient là et qui étaient les enfants de ceux qui avaient été baptisés par saint Jean Capriel. C'est tout ça, il y a une chrétienté quand même, secrète, catacombale, il y a 3 millions de catholiques là-bas. C'est tout, c'est pas beaucoup, sur 1 milliard, hein, de Chinois. Bon. C'est rien du tout, 3 millions, c'est une goutte d'eau. Mais enfin, le nombre de ceux qui ont la foi chrétienne est considérable. Mais ils n'ont pas le droit. Donc, ça ne cesse pas. Voilà, donc sachez-le que bon, c'est un grand bonhomme et il fait partie de notre communauté à partir de maintenant. il fait partie de notre communauté. Si vous voulez regarder un petit peu le truc, c'est ça. Voilà. Bon, donc je me suis retrouvé à Rome et je trouvais ça très intéressant. J'ai eu l'occasion du coup de toucher la main du pape, le pauvre pape qui, vous savez, il faut beaucoup prier. Alors le pape est très fatigué, très triste. Bon, j'ai entendu dire que des personnages d'une autre nationalité, que la nationalité française d'ailleurs, avaient posé la question au pape, mais pourquoi vous êtes si fatigué, si effondré, il faut prier pour quoi, etc. Et là, il a dit, il faut prier pour le clergé de France. Et pour la curie romaine. Il faut beaucoup prier pour le clergé français. C'est sûrement sa grande préoccupation. C'est sûr que si ce qui coule le pape, c'est évidemment le clergé français. Ça, c'est un secret pour personne. C'est probablement l'église la plus terrible de toute la terre, l'église de France. Bon. On souhaite quand même qu'elle n'aille pas jusqu'à la trahison, quand même. Mais en tout cas, il est sûr que le pape, en tout cas, est très fatigué. Et bon, pour vous décrire un tout petit peu, il est méconnaissable. Il est méconnaissable. Là, vous voyez quand on l'a vu il y a quelques années, là, il y a 3 ou 4 ans, il était resplendissant. Il était resplendissant, il était d'une puissance, d'un rayonnement extraordinaire, tandis que là, il avance, je sais pas, j'ose même pas vous le... J'ai peur de manquer de respect en l'imitant, presque. S'il avance comme ça, millimètre par millimètre, on se demande comment il tient encore debout, quoi. On se demande, c'est pas... Bon, enfin, il va peut-être venir en France quand même, hein. Mais enfin, il est à bout. Donc, c'est le moment de prier pour lui, en vertu de justice, n'est-ce pas? Puisque, de toute évidence, il n'a plus les ressources pour le faire. Voilà. Donc, il faut beaucoup prier en son nom, et c'est le moment de le faire. Vous savez que la catholicité de l'Église et le fait de faire partie du cœur mystique de Jésus, du corps mystique de Jésus, c'est-à-dire d'être catholique, nous oblige, hein, cette fois-ci en devoir de charité fraternelle, qui est le premier devoir du chrétien, de prier au nom du Saint-Père, dans la peau du pape. Se mettre dans la peau du pape et de prier, et le pape c'est moi, voilà. Je me mets dans la peau du pape et je prie à sa place. Je prie dans son cœur, je prie dans son âme, je prie dans son corps, je prie dans sa peau. Je communie dans le pape, dans le Christ sur la terre. Ça, ça fait partie hein, de la charité la plus élémentaire de quelqu'un qui fait partie du corps mystique du Christ, c'est-à-dire qui est catholique. S'il ne l'est pas, tant pis pour lui, ça, tant pis, ça, on verra avec lui plus tard comment ce qu'il va récolter. Hein. Mais c'est sûr que c'est très important de faire ça. Moi, je vous engage à faire ça très très fort, n'est-ce pas? Dès que vous avez l'Eucharistie, dès que vous avez l'Immaculée, dès que vous avez l'Eucharistie et l'Immaculée ensemble, allez-y, mettez-vous dans la peau du Saint-Père, mettez-vous dans son cœur, mettez-vous dans son âme, mettez-vous dans son esprit, mettez-vous dans ses mains et puis priez à sa place, offrez-vous à sa place, suppliez à sa place, rayonnez à sa place, en lui, dans sa peau. C'est le seul moyen, d'après la tradition de l'Église, qui date de plusieurs millénaires, d'obtenir l'indulgence absolue et la miséricorde totale de Dieu. Le seul moyen, c'est extraordinaire. On appelle ça l'indulgence plénière. Ça, c'est, vous voyez, c'est des enseignements qui ne sont plus enseignés, évidemment, parce que en France, on est très gallicans. Hein. Donc, le pape, c'est Rome, hein, c'est nous en France, c'est l'Église, c'est nous. Hein, c'est nous. Nous. Non, mais le pape, bon, alors j'ai touché sa main quand même. J'ai touché sa main. Je me suis dit, je ne veux pas le vider de ses énergies. Je touche juste un petit peu sa main. Ça, je touchais sa main. Et il a vu des enfants, il y avait des enfants qui étaient là. Ah, il s'est un peu réveillé. Ah, ça, il est venu respirer un petit peu auprès des enfants, puis il est reparti en mettant un millimètre après un millimètre ses pieds. Ouais, ça va donner une idée, quoi. Mais à Rome, tout le monde, que ce soit ces grands cardinaux comme le préfet de congrégation, comme le cardinal Poupart, etc., que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Ah, c'est vrai que j'ai pas eu le bonheur de rencontrer. Ou les monsignores, ou les prêtres, ou les évêques qui sont là-bas. Alors là, tout le monde, au contraire, est immense. Vénération, amour, unité, osmose, si je puis dire, spirituelle avec le pape, avec sa pensée, avec ce qu'il pense, avec ce qu'il dit. Voilà, ça c'est sûr, c'est très impressionnant. Vous ne pouvez pas faire un pas dans l'écurie, les congrégations, les conseils pontificaux, les palais pontificaux, sans entendre, si vous demandez un avis, hein, jamais il n'y aura aucune référence à saint Thomas d'Aquin, à saint Augustin, à Pie XII, à Paul VI, non. La pensée du Saint-Père, c'est ça. Il n'y a que le Saint-Père. C'est extraordinaire de voir ça. C'est extraordinaire de voir comme le pape, à force d'être resté ici à Rome, comme quelque part, il a conquis et réalisé un corps mystique extraordinaire à Rome. Chose que nous ne voyons pas, évidemment, dans nos pauvres communautés de France. C'est dirigé par l'Esprit Saint, par le Christ. Et c'est le Christ qui a choisi, c'est la prêtre, celui-là, évêque, etc. Et ceci dans le monde entier. Puis il y a 404 000 prêtres dans le monde. Et c'est l'Esprit Saint qui fait vivre l'ensemble de toutes ces communautés chrétiennes. Et les évêques, qu'est-ce qu'ils demandent à Rome comme service? Qu'on précise, quel conseil doit-on donner dans telle situation? Quel message doit-on donner dans telle situation concrète? Quelle précision dogmatique doit-on approfondir? Parce que ça, c'est nécessaire pour nous aujourd'hui. Et c'est les évêques qui apportent tous ces besoins de la pastorale, de la charité, de l'union à Dieu du monde entier. Mais vous arrivez avec vos sandales, vos pieds nus. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous, ce que vous nous demandez là, votre histoire, pas un seul évêque du monde ne nous en a parlé une seule fois. Ensemble vide. Vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Ou alors, vous allez voir les évêques, et les évêques, donc à ce moment-là, nous transmettent en disant c'est très important que nous puissions travailler et préciser la question suivante. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez un jour que... Et c'est ce qui s'est passé pour Donum Vitae, par exemple. À un moment, il y a eu les premières éprouvettes où on faisait des enfants dans les éprouvettes. Bon, moi je connais le petit, le 300e. Il est génial le mec. Il a 8 ans, 7-8 ans, mais il est absolument extraordinaire. Il est un éveil, il est prodigieux, il est merveilleux, ce garçon. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Il est beaucoup plus éveillé que les autres sur le plan spirituel. Curieux, hein? Pourtant, il n'y a pas des parents très. Sont laïcs comme c'est pas permis. Laïcard. Lui, il est laïque, anti-chrétien, anti-christ, anti-dieu, athée, c'est comme c'est permis, sauf le père. Et la mère est protestante, laïcarde aussi. Donc, je sais pas. Et ce petit, il demande le baptême, il demande le baptême, il demande le baptême. Quand je fais des sermons, il est là, je pose des questions, c'est génial, parce que tout, on fait du ping-pong pendant les sermons. Ça marche tout seul avec lui, c'est extraordinaire, ce type-là. Il a été fait dans une éprouvette. Mais à l'époque, l'Église dit non, hein, pour les éprouvettes. Hein. Ouais, je ne suis pas en train de vous faire, si vous voulez avoir un gosse génial, faites-le faire dans les éprouvettes. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Si, à l'époque, les prêtres, les médecins allaient voir les prêtres, en disant, mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut participer à ça? Et il y a eu des dizaines, des centaines de lettres qui ont été communiquées par les évêques à Rome. Dans l'année, ils ont bûché là-dessus, ils ont regardé Aristote, ils ont regardé toutes les sagesses orientales, occidentales, la métaphysique, les philosophies, les lois de la nature, etc., etc. Et puis l'écriture, etc. Et puis ils ont sorti un texte absolument parfait, Donum Vitae, là, sur la question. Absolument parfait. On sait pourquoi il ne faut pas, on sait en quoi... On pense que ce serait quand même pas mal, mais en quoi cette pensée selon laquelle c'est pas mal, puisque ça donne de bons résultats, est fausse? Et pourquoi ça ne va pas? Et pourquoi il ne faut pas le faire? Et surtout pas le faire. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici pourquoi il ne faut pas le faire. Si, je peux vous expliquer si vous voulez. Puisque c'est normal, c'est la dernière fois qu'on se voit. Donc on peut parler à... On peut parler sur les... à bâton rompu, n'est-ce pas? Bon... À bâton rompu. C'est que ça n'empêche pas de faire qu'il y a un enfant, puisqu'il y a bien la rencontre d'un gamète mâle, une gamète féminine, et l'intervention procréatrice de Dieu. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait un enfant absolument normal. Bon. Outre le problème de la méthodologie, selon lequel, bon, on risque évidemment de faire du surnuméraire, donc de faire plusieurs, un nombre en trop, et du coup, on va avorter les autres. Bon, ça c'est une question de méthode, il suffit simplement d'en faire qu'un, puis voilà. Mais outre ce problème-là, donc on regarde simplement, supposons qu'il n'y en a qu'un. Eh bien, le problème, c'est que j'ai séparé la rencontre du gamète masculin et féminin de la rencontre de l'union des corps de l'homme et de la femme dans l'unité sponsale. Et comme j'ai séparé les deux, je fais quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Parce qu'à ce moment-là, je détruis l'unité sponsale. D'une part. Et deuxièmement, je détruis aussi, probablement, la relation qu'il y a entre l'unité sponsale et l'enfant. Et donc, sans doute, le sens que l'enfant aura plus tard de l'unité sponsale. Et effectivement, la mère de ce petit garçon dont je vous parle m'a dit, c'est extrêmement curieux, quand mon petit n'avait pas encore le langage, j'y parlais un tout petit peu, oui, bâton, et comme elle est institutrice, elle lui avait fait dessiner. Elle a dit, il paraît que tous les petits enfants qui sont nés comme lui, c'est pareil. Un enfant normal, vous lui faites dessiner à l'âge de 2 ans, 3 ans. Vous lui faites dessiner, alors il dessine une maison. Voilà, il dessine une maison. Voilà, si vous voulez. Bon, un arbre. Moi, je dessine mieux que lui. Hein. Un chemin. Pas toujours le soleil.
Souvent.
Souvent, pas toujours. Un chemin. Un chemin. Et éventuellement, pas toujours, des personnages. Mais ici, 2 ans et demi. Hein. Les personnages, c'est après. C'est plus âgé. Hein.
C'est...
Oui, la fenêtre.
Oui,
d'accord. Bon. Bon. Enfin, donc là, alors, la maman me disait, parce que, vous voyez, comme je suis large d'esprit, je discute avec les laïcars. Les laïcars par paillot, en plus. À chaque fois, je la vois, je dis, quoi, toi encore, qu'est-ce que tu viens me pourrir, etc. T'es parpaillote, hérétique, tout le camp. Hein. Bon alors, hein? Ben, bien sûr. Alors voilà. Lorsque ce sont des enfants qui ont été fécondés en fivette, le chemin s'arrête et n'est pas lié à la maison. Et deuxièmement, il disait très curieux, parce qu'il avait, il parlait pas encore. Hein. Et vous savez qu'un dessin d'un enfant, il ne sait pas faire des traits très droits. Hein. Il fait des maisons. Ça, c'est quoi Bon, ben ça, c'est la maison. Voilà. Ah, et ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est... Bon, c'est la route, je sais pas quoi. Bon, très bien. Donc, elle va pas jusqu'à la porte, n'est-ce pas? Premièrement. Mais lui, il faisait en plus... Donc, c'est toujours très tordu. Hein, les... Mais... lui, il faisait dans le chemin un trait parfaitement droit à 2 ans et demi. Un trait parfaitement droit. Et tous ceux, beaucoup qui, elle a entendu parler puisqu'elle est en contact avec d'autres, les autres aussi. Et elle lui a fait expliquer quand il commence à parler à 3 ans, pourquoi, qu'est-ce que c'est ça? Il a dit ça, c'est pour aller chercher ça. C'est pour aller chercher. Il a fait le geste d'aller chercher, c'est le geste de la pipette qui vient chercher le sperme pour le mettre. C'est un instrument, c'est instrumental, c'est droit, c'est artificiel. C'est pas naturel, la nature se donne toujours dans le multiple. Tandis que l'artificiel se donne toujours dans l'univoque. Et donc, il a dans sa mémoire d'enfant cette espèce d'instrument par lequel on est venu chercher le sperme pour atteindre, la maison représente l'ovule, le chemin représente le sperme, hein, paraît-il, ça c'est le psychologue qui dit ça, hein. Moi je ne connais rien. Mais alors c'est marrant parce qu'il y a un instrument, le sperme, mais il n'y a pas d'injonction entre donc, l'homme et la femme, en fait. Alors c'est marrant parce que dans la psychologie de l'enfant, et lui-même le gosse le dit, alors qu'il ne sait pas qu'il provient d'une fivette. Il te dit, oui, ça c'est quelque chose de, c'est ce qu'il vient chercher pour me mettre là. Et il y a un médecin à Lyon qui était chargé, vous savez, toute est, sa spécialité, vous savez, maintenant c'est le grand truc, c'est les spécialités. Hein. Donc, ce jeune médecin, ça commence à dater, c'était l'époque où on écrivait des lettres à Rome pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Hein, ce médecin, il s'occupait en psychiatrie des parents, hommes et femmes, donc stériles. Il y avait la stérilité, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc, quel problème? Ça pose des problèmes dans le ménage, n'est-ce pas? Donc, alors, on essaie de suivre psychologiquement. Donc, cette histoire de Fivette était évidemment une respiration pour un médecin de ce genre. Il dit, je vais faire ma thèse. Et là, je vais prendre 100, 200 de cas, et on va voir ce que donne le résultat pour la résolution des problèmes du ménage, dans le cas de la stérilité, d'une fivette et de l'apparition d'un enfant. Vous me suivez? Et donc, il a fait une thèse, justement, pour encourager, bien entendu, la chose. C'était pas du tout pour aller contre. Mais il s'est rendu compte que dans tous les cas, s'opérait immédiatement une glaciation des rapports entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il y avait une impossibilité psychologique de parler. C'était paralysie totale à partir du moment où il y avait fait sur cette question-là. Alors j'en ai parlé justement aux parents de la petite chose. Oui, parfaitement exact. Il y a eu un changement absolu à partir de ce moment. On a été obligé de tout foutre en l'air, bousiller la maison où on était, changer de lieu, changer complètement d'endroit, recommencer à zéro comme si on était parti à zéro, parce que sinon ça allait exploser. Vous voyez, comme quoi la pensée du Donum Vitae dans l'Église n'est pas si idiote que ça. Elle réfléchit uniquement avec la sagesse occidentale, plus la sagesse de l'Écriture, plus l'aide évidemment, bien sûr, des docteurs de l'Église, l'infaillibilité correspondante de l'Esprit Saint. Et elle dit bien, c'est l'unité responsable qui est brisée. Donc on ne peut pas faire un acte qui va tuer l'unité responsable, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas faire un acte qui sépare l'enfant de l'unité responsable dans toute sa vie psychique et tous ses schèmes mentaux, et puis psychiques et corporels. On en fait un démembré par rapport à l'unité responsable. Alors évidemment, du coup, il est très éveillé sur le plan efficacité. C'est peut-être ce que le démon veut. Des hommes efficaces, mais sans aucune fécondité.
Demande qu'on arrête le procédé de créer de cette façon et de congeler, de garder et congeler.
Alors ça, la congélation, c'est encore un autre problème qui est en couille. Tout à fait, oui.
L'âme a bien été
contre. Oui, tout à fait. Ah, ça, il n'a pas parlé de ça, mais il n'a pas dit que l'âme a été créée par Dieu, mais il a dit il y a la vie humaine et on ne peut pas congeler une vie humaine. C'est contraire à la dignité de la personne.
Parce que l'être existe.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.